La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission La parole des contes. Et je nous invite cette fois-ci à aller visiter le thème du cheval. Et pour commencer, le cheval qui s'offre en sacrifice pour que l'histoire advienne. Et nous le puiserons dans des contes russes, le prince Ivan et l'oiseau de feu. Il était une fois un tsar, un empereur de Russie qui avait trois fils, Dimitri, Vassili et Ivan. Le tsar, lui, s'appelait Vislav. Son royaume était des plus riches, son palais magnifique. Dans son merveilleux jardin poussaient les arbres les plus rares et mûrissaient les fruits les plus savoureux. L'arbre préféré du tsar était un pommier pas ordinaire qui donnait des pommes en or. Un matin, le tsar alla comme d'habitude se promener dans le jardin et s'arrêta pensif sous l'arbre aux pommes d'or. J'ai bien l'impression qu'on me vole des pommes. Il les compta une par une. Le lendemain, dès son arrivée au jardin, il les recompta. Plusieurs fruits avaient disparu. Qui donc pouvait voler dans le jardin du tsar et justement ses fruits préférés? Le soir même, le tsar Vislav se cacha à proximité de l'arbre et monta la garde pendant toute la nuit. Soudain, un oiseau de feu se posa sur la branche la plus haute. Tout son plumage était en or. Ses yeux brillaient comme deux diamants. Il détacha avec son bec deux pommes d'or et s'envola. Le tsar en était resté à ce point ébahi et me disait qu'il n'avait même pas pu faire un geste. Le lendemain matin, de bonne heure, il appela ses fils et leur dit « J'ai vu de mes yeux un oiseau de feu dérober les pommes d'or de mon jardin. À celui de vous qui l'attrapera vivant, je donne de suite la moitié de mon empire et à ma mort, il sera le maître de tout le reste. » Les trois princes répondirent d'une seule voix « Majesté, nous ferons notre possible et essaierons de capturer vivant l'oiseau de feu. » Dimitri, l'aîné, monta la garde, le premier. Après une heure, la fatigue le vainquit. Il s'assit sous l'arbre et s'endormit. L'oiseau de feu reparut, détacha deux pommes d'or et s'envola sans avoir été vu. Le lendemain matin, le tsar appela son fils et lui demanda « Alors, mon cher enfant, as-tu vu l'oiseau de feu ?»«
Oh, Majesté, mon père, non, non, il n'est pas venu. »
Et le tsar reconta, il avait bien vu que deux avaient disparu. La deuxième nuit, ce fut le tour du prince Vassili. Et lui aussi céda à la fatigue, il s'endormit au pied de l'arbre. L'oiseau de feu vint, vola des pommes et s'enfuit, sans avoir été vu. Le prince Vassili, comme son frère, dit « Non, non, nul n'est venu !»
La troisième nuit, le prince Ivan prit la garde. Il s'assit sous le pommier et ne se laissa point vaincre par le sommeil. Une heure passa, puis deux, puis trois. Soudain, le jardin tout entier sembla éclairé comme en plein jour. L'oiseau de feu arriva, se posa sur l'arbre et commença à détacher des pommes. Le prince Ivan s'approcha tout doucement, sans faire de bruit, et saisit fortement l'oiseau par la queue. Et ce fut en vain. D'un seul effort, l'oiseau aux plumes d'or se dégagea de la main qui le tenait prisonnier et s'envola par-dessus le mur du jardin. Et toutefois, dans la main du prince, Ivan était resté une plume d'or, si lumineuse qu'on le crut de feu. Le jardin en était éclairé comme par une torche éblouissante. Le tsar Vislav mit la plume d'or dans la salle du trésor.
et l'oiseau de feu n'étant plus revenu lui voler des pommes, il se jugea satisfait, car l'oiseau avait dû avoir très peur. Quelques jours passèrent. De temps à autre, le tsar allait s'assurer dans la salle du trésor que la plume brillait toujours du même éclat. Et peu à peu, il fut pris du désir de posséder l'oiseau de feu. Il rappela ses trois fils et leur dit « Mes enfants, la promesse que je vous avais faite tient toujours. La moitié de mon empire, tout de suite à celui d'entre vous qui me rapportera vivant l'oiseau de feu, et à ma mort, il sera le maître absolu de mon empire, et ses frères lui devront obéissance. » Dimitri et Vassili étaient déjà jaloux d'Ivan parce que lui avait réussi à arracher une plume à l'oiseau. Ils s'empressèrent de saluer leur père et s'en allèrent ensemble, laissant au palais leur frère cadet. Ivan demanda la bénédiction de son père, monta à cheval et partit seul. Il marcha, donc, où il fit marcher son cheval longtemps, longtemps, et il arriva au milieu d'une prairie et aperçut un poteau sur lequel étaient écrits quelques mots. Il s'approcha et lut. « Celui qui ira tout droit aura faim et froid. Celui qui ira à droite aura la vie sauve, mais perdra son cheval. Celui qui ira à gauche mourra, mais son cheval sera sauf. » Ivan considéra qu'il n'avait pas le choix. Il se dirigea à droite. « Je regrette un peu pour mon cheval, mais je pourrai toujours en trouver un autre. » Il se faucha pendant 3 jours sans rencontrer âme qui vive. Toujours sur le dos de son cheval. À la fin du 3e jour, il vit s'avancer un loup gris. Et le loup lui dit
« Prince Ivan, pourquoi es-tu venu par ici? Ne sais-tu pas lire ?»
Et à l'instant même, son cheval tomba raide, mort. Et le loup avait disparu. Ah, le prince Ivan éprouva un chagrin pour la mort de son cheval. Et dans cette solitude, il avait l'impression d'avoir perdu son seul ami. Il reprit courage, se remit en route, marcha donc à pied pendant 3 jours, et voici que de nouveau il vit réapparaître le loup gris.
« Prince Ivan, ton cheval est mort. Eh, tu étais prévenu. »
« Je l'ai mangé. »
« Et en échange, je veux t'aider. »
« Saute sur mon dos et je te conduirai là où tu voudras. »
« Ben, mon cher loup, je cherche l'oiseau de feu. Je ne sais guère où il est. Il venait voler les pommes d'or dans le jardin de mon père, le tsar Vislav. »
« Saute sur mon dos et accroche-toi !»
Courait plus vite que le vent, plus vite que ton ombre, et il galopa, galopa toute la journée. La nuit était tombée lorsqu'il arriva au pied d'une haute muraille. « Prince Ivan, écoute bien ce que je te dis, » dit le loup. « Escalade ce mur, derrière tu trouveras un jardin, et tu verras attaché à un arbre une cage d'or avec l'oiseau de feu dedans. » Tu avanceras ta main et il sortira de la cage, elle est ouverte, et il se posera sur ta main et tu reviens. Et surtout, écoute-moi bien, tu ne touches pas à la cage. Le jeune homme escalada le mur, se laissa glisser de l'autre côté dans le jardin. Il trouva de suite l'oiseau qui émanait une lumière si vive. Comme le loup lui avait dit, il a tendu la main vers la cage. L'oiseau en est sorti librement. Il s'est posé sur la main du prince Ivan Et alors le prince Ivan a regardé cette cage magnifique avec des pierres incrustées. Oh, elle est trop belle! Et il toucha la cage. À peine l'avait-il touchée qu'il entendit tinter un grand nombre de clochettes attachées à la cage pour donner l'alerte. De toutes parts surgirent des sentinelles qui s'emparèrent du prince Ivan et le conduisirent devant le tsar Dolmat, leur maître et seigneur.
Le tsar Dolmat. « Jeune homme, n'as-tu pas honte de voler? Qui es-tu? Quel est le nom de ton père ?»«
Je suis Ivan, le fils du tsar Vislav. Et ton oiseau de feu venait souvent voler les pommes d'or du jardin de mon père. Alors mon père m'a envoyé à sa recherche avec l'ordre de le lui rapporter vivant. »
Oh, ce n'est pas bien de te conduire de la sorte. Si tu étais venu me demander l'oiseau de feu, je te l'aurais donné avec tous les honneurs dus à ton rang, à toi, ô fils du tsar Vislav. Tu as commis une faute. Tu dois faire quelque chose pour moi.
Au bout du monde, dans le royaume du tsar Afron, broute un cheval pas ordinaire, un cheval à la crinière d'or. Si tu parviens à me le rapporter, je te donnerai l'oiseau de feu et la cage avec. Le prince Ivan baissa la tête et sortit du palais du tsar. Et il se rapprocha du loup gris qui l'attendait.
« Oh, prince Ivan, prince Ivan, pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?»«
Eh oui, le loup, oui, c'est de ma faute, tu as raison. »«
Et comment se fait-il que le tsar Dolman t'ait laissé sortir ?»«
Eh, le loup, le tsar Dolman souhaite que je lui rapporte le cheval à la crinière d'or du tsar Alfon. »«
Ah ah !» « Eh bien, saute sur mon dos et accroche-toi !»
Le loup galopa plus vite que le vent, plus vite que la flèche, pendant toute une journée de route. Et enfin, les voyageurs aperçurent les écuries du tsar Afron.
Prince Ivan, écoute bien ce que je te dis. Tu vas entrer dans les écuries. Tu prends le cheval à la crinière d'or. Tu le tapotes, il te suivra. Et surtout, tu ne touches pas aux rênes d'or.
Le jeune homme pénétra avec précaution dans les écuries. Tous les palefreniers étaient plongés dans un sommeil profond. Il tapota le cheval à la crinière d'or qui le suivit aussitôt. Et à ce moment, le regard d'Ivan tomba sur les rênes d'or pendues au mur. Elles étaient si belles avec des pierres incrustées qu'il ne sut résister. Il les décrocha.
Aussitôt, les palefreniers se réveillèrent, s'emparèrent du voleur et le conduisirent devant le tsar Alfon.
Oh, jeune homme, n'as-tu pas honte de voler? Qui es-tu? Quel est le nom de ton père?
Je suis Ivan, le fils du tsar Vislav, et je venais pour prendre le cheval à la crinière d'or.
Oh, oh, ce n'est pas bien de te conduire ainsi. Si tu étais venu me demander le cheval à la crinière d'or, je te l'aurais donné avec tous les honneurs dus à ton rang, toi, fils de tsar.
Tu as commis une faute. Tu dois faire quelque chose pour moi. Au bout du monde. Dans son lointain royaume, vit Hélène la Belle. Je voulais l'épouser et elle m'a refusé. Alors toi, voleur de cheval, si tu parviens à la trouver
et à me le ramener, je te donnerai le cheval à la crinière d'or et aux rênes d'or. Tu pourras alors retourner dans ton royaume avec tous les honneurs dus à ton rang. » Ivan sortit et rejoignit le loup gris qui l'attendait. « Prince Ivan, prince Ivan, pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?»« Eh oui, le loup, eh oui, tu as raison, c'est de ma faute. »« Allez, allez, n'y pense plus, saute sur mon dos et accroche-toi !» Et le loup galope, galope, plus vite que le vent, plus vite qu'une flèche. Avec le prince Ivan sur le dos et galopi, galopa, ils arrivent jusqu'à une grille d'or. Ils s'arrêtent. Et là, le loup, il dit, « Retourne-toi, prince Ivan, maintenant, et attends-moi sous le grand chêne que nous venons de dépasser. Je vais m'occuper de tout. » Le jeune homme fit ce que le loup lui ordonnait. Il rebroussa chemin jusqu'au grand chêne, s'installa et attendit patiemment. Pendant ce temps, le loup gris était allongé devant la grille d'or. Les heures s'écoulèrent lentement jusqu'au coucher du soleil. Et c'est à ce moment-là que la princesse Hélène la Belle descendit dans le jardin et passa devant la grille. Prompt comme l'éclair, le loup gris bondit par-dessus la clôture, se saisit de la princesse, se sauta de nouveau avec elle par-dessus la grille et courant à perdre haleine, atteignit le chêne et cria « Prince Ivan, monte sur mon dos et accroche-toi !» Le prince sauta derrière Hélène la Belle et le loup ventre à terre les porta au palais du tsar à Front. Le prince Ivan, monté sur le dos du loup gris derrière Hélène la Belle, admirait à loisir la grande beauté de la princesse. Les cheveux s'entouraient autour de son cou. Il était admiratif, médusé, amoureux. Alors, lorsqu'ils arrivèrent dans le royaume du tsar à Front, il se sentit triste à la pensée de se séparer d'elle. Et le loup lui demanda « Mais qu'as-tu, mon ami, le prince Ivan ?»« Oh, loup, mon ami, comment ne pas être triste à l'idée d'échanger Hélène la Belle contre un cheval à la crinière d'or ?»« Et il me faut remettre la princesse ?»«
Je t'ai déjà rendu beaucoup de services, prince. Aie confiance en moi. » Et tu verras. Et donc le loup dit, nous allons laisser Hélène la Belle là, dans ce bosquet de bouleaux. Elle nous attendra. Le prince Ivan était un peu étonné. Il suivit le loup qui marchait à ses côtés. Et soudain, le loup se mit sur ses deux pattes arrière. Et les cheveux d'Hélène la Belle, identiques, tombèrent sur les épaules du loup, qui se transforma en une Hélène la Belle, en tout point identique. Et ainsi, le jeune prince Ivan, à côté d'une fausse Hélène la Belle, se présenta devant le tsar Alphen, et le tsar ravi célébra le mariage de suite et dit « Et garde, donnez le cheval à la crinière d'or et les rênes d'or. Il l'a bien mérité, ce prince Ivan. Et bon voyage !» Ivan sauta sur la selle du cheval à la crinière d'or et vint rejoindre la Hélène la Belle qui l'attendait dans le bois de bouleaux. Il l'aida à monter sur le cheval et ils marchèrent tous deux à cheval. Hélène la Belle était devant et le prince Ivan était derrière.
Ils échangeaient des mots. Et soudain, « Mais mon ami le loup !» Et son ami le loup, il était dans le lit du en fausse Hélène la Belle. Et soudain, il se retransforma en loup et il sortit du palais du tsar et galopa si vite qu'il rejoignit le Hélène la Belle et le prince Ivan assis sur le cheval à la crinière d'or. « Et dépêche-toi, Ivan, descends du cheval et saute sur mon dos !» Et ils allèrent comme ça jusqu'au palais du tsar Dolmat. Et le prince Ivan descendit du loup, et Hélène la Belle et le cheval à la crinière d'or attendirent dans un bosquet. Le prince Ivan marchait à côté du loup, et le loup s'est mis à grandir, et le prince Ivan ne marchait plus à côté d'un loup, mais à côté d'un cheval à la crinière d'or. Et le tsar Dolmat était très content, et comme il avait promis, il donna en échange du cheval à la crinière d'or, l'oiseau de feu et sa cage en or. Et ainsi, le loup resta près du tsar et Ivan retourna près de la Hélène la Belle et du cheval à la crinière d'or. Et avec, il portait la cage de l'oiseau de feu. Et ils ont chevauché ainsi tous les deux sur le cheval à la crinière d'or et elle portait la cage dorée avec l'oiseau de feu. Après avoir chevauché plusieurs heures, le prince Ivan repensa à son ami le loup. « Oh, et mon ami le loup, qu'est-il devenu ?» Et immédiatement, le loup se trouva à son côté. Ils galopèrent longtemps et arrivèrent là où le loup gris avait fait mourir le cheval du prince Ivan. Ils s'arrêtèrent, et le loup dit « Nous voici à l'endroit où ton cheval est mort. Je t'y ai ramené. Maintenant, tu as le cheval à la crinière d'or. Eh bien, je ne suis plus à ton service. » Le loup gris s'en alla et disparut. Le prince Ivan était un peu triste. Il monta sur le cheval derrière Hélène la Belle et reprit sa route. Quand ils ne furent plus qu'à 20 lieues des limites du royaume du tsar Vislav, le prince arrêta le cheval, en descendit avec la princesse pour se reposer à l'ombre d'un arbre. Il attacha le cheval avec les rênes d'or, posa sur le sol la cage contenant l'oiseau de feu, s'allongea dans l'herbe et commença à bavarder avec Hélène la Belle. Ils étaient si absorbés par leur conversation qu'ils ne s'aperçurent même pas que le temps passait. Soudain, un bruit de galop les interrompit et presque aussitôt, deux cavaliers s'arrêtèrent devant eux. C'étaient les frères du prince Ivan, les princes Dimitri et Vassili. Les frères se saluèrent affectueusement, mais dès que les deux aînés eurent entendu le récit des aventures d'Ivan et appris avec quelle facilité il avait conquis l'oiseau de feu, le cheval à la crinière d'or et Hélène la Belle, une immense jalousie embrasa leur cœur et ils n'eurent d'autre désir que de se débarrasser de leur jeune frère. Ils bondirent sur lui, l'attachèrent étroitement au tronc d'un arbre, prirent en selle la princesse et s'enfuirent emportant aussi le cheval et la cage. Peu après, ils s'arrêtèrent. Et Dimitri parla. « Écoute, belle princesse, maintenant, tu es en notre pouvoir et tu dois faire ce que nous allons te dire. D'ici peu, nous serons devant notre père, le tsar Vislas. Tu lui raconteras que tu es notre conquête, ainsi que le cheval à la crinière d'or et l'oiseau de feu. » Hélène la Belle se mit à pleurer. Dimitri dégaina son épée, la menaça en ces termes. « Si tu n'acceptes pas, nous te tuons de suite. » Les deux frères se concertèrent, décidèrent que Vassili prendrait la princesse et Dimitri le cheval et l'oiseau de feu.
Puis ils arrivèrent au plus vite au palais du tsar Vislas, leur père. Quant à Ivan, attaché à l'arbre, il commençait à souffrir de faim et de soif. Il résista 4 jours, mais le 5e, il laissa tomber sa tête sur la poitrine, près de rendre l'âme. Aussitôt, de nombreux corbeaux se posèrent sur les branches de l'arbre, attendant sa faim. Le loup gris sortit alors du fourré et courut vers son ami.
« Seigneur corbeau ! »
cria-t-il au corbeau le plus grand et qui semblait être le chef.
« Aide-moi à libérer le prince Ivan !»«
Mais, beau sire, nous attendons justement sa mort. »«
Tu vas m'aider, seigneur corbeau !»« Ou bien je ne laisserai pas un seul corbeau vivant dans la forêt !»«
Oh, 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 d'accord, d'accord !» Le corbeau fit un signe et tous les autres oiseaux se mirent à donner de rapides coups de bec sur la corde qui tenait attaché le corps d'Ivan jusqu'à ce que le pauvre prince, n'étant plus soutenu, s'écroula.
« Maintenant !»
ordonna le loup gris.
« Courez chercher de l'eau !»
Ce fut ainsi que, grâce aux soins du loup et à l'aide des corbeaux, Ivan put reprendre connaissance. Il regarda autour de lui, étonné de ce qu'il voyait.
« Prince Ivan, commença le loup gris sans se perdre en discours, tu serais mort si je n'étais venu et si le seigneur corbeau avait refusé de m'aider. Tes frères se sont conduits d'une manière inhumaine et ton frère Vassili est sur le point d'épouser Hélène la Belle. Alors vite, saute sur mon dos et dépêchons-nous !»
Le prince Ivan, sans hésiter, sauta sur le dos du loup et en 2 bonds ils arrivèrent aux portes de la ville.
« C'est ici que nous devons nous quitter, dit le loup. « Je souhaite que tu n'aies plus besoin de mon aide. Adieu !»
Le prince Ivan, sans perdre de temps, courut au palais royal, grimpa les escaliers et fit irruption dans la salle des fêtes. Le tsar allait se mettre à table, ayant à sa droite Hélène la Belle et à sa gauche le prince Vassili. Le prince Dimitri était à la gauche de la princesse. « La jeune fille ?»
Dès qu'elle vit, Ivan s'écria « Le voilà ! Le voilà, le prince qui m'a conquise !»
Le tsar Vislas embrassa le fils qu'il croyait mort, car c'était ce que Dimitri Vassili lui avait fait croire. Puis il voulut avoir de plus amples détails de la bouche d'Hélène. Et celle-ci, sans la moindre crainte, raconta la vérité. Comment Ivan avait réussi à l'enlever et à obtenir le cheval à la crinière d'or et l'oiseau de feu, et tout cela grâce au loup gris. Lorsque le récit fut terminé, le tsar chercha d'un regard courroucé ses 2 fils aînés. Il y avait beau temps qu'ils s'étaient enfuis. Alors on continua la fête et le prince Ivan épousa Hélène la Belle et ils vécurent heureux pendant de très longues années. Et c'est ainsi que ce conte-là se termine grâce au loup gris.
C'est l'histoire d'un cheval qui va se faire avoir par une tortue d'eau douce. La petite tortue d'eau douce avait chaussé ses lunettes et elle lisait le journal au bord d'un ruisseau. Et au bord de ce ruisseau, il y avait un cheval blanc qui venait boire et il faisait...
Elle lui dit « Bonjour, Commère la tortue !» Oh, la petite tortue, elle le regarde fixement par-dessus ses lunettes et elle lui répond « Cheval blanc est mon cheval !»
Oh ben, cheval blanc, il s'arrête tout d'une pièce, il ne sait pas quoi répondre. Comme ça, tout de go, rien ne lui vient à l'esprit. Mais le soir, lorsqu'il revient au ruisseau, il dit alors à la tortue, « La tortue n'a pas de cheval. Je ne suis pas ton cheval. » Oh, peu de temps après, la tortue s'en vient à la cour et dit au roi : « Cheval blanc est mon cheval. » Le roi envoie chercher Cheval blanc et lui dit : « Alors, comme ça, toi, tu es le cheval de la tortue ?» Et Cheval blanc ne sait pas quoi répondre. Comme ça, tout de go, rien ne lui vient à l'esprit. Réfléchis, réfléchis. Et puis, il va voir la tortue et il lui dit : « Allons voir le roi tous les deux, car toi, tu lui as menti. » Oh, ben c'est pas de chance, répond la tortue. Aujourd'hui, justement, je suis mourante. Je ne peux pas marcher. Oh, ben si tu ne peux pas marcher, je vais te porter, lui dit le cheval. Oh, mais avec ces douleurs que j'ai, je peux pas. Eh bien, tu monteras sur ma croupe. Mais je vais tomber. La tortue fait un effort énorme. Elle grimpe sur la croupe de cheval blanc. Et puis, poum, elle tombe par terre. Boum, dure et ronde comme une pierre. Ben, attends, la tortue, je vais te mettre une couverture. Tu seras mieux installé. » Et au moindre mouvement de cheval, la tortue tout endolorie s'écroule. « Oh ben attends la tortue, je vais te mettre une selle. »«
Mais comment pourrais-je tenir ?»«
Eh bien, je mettrai aussi le mors et les brides. »«
Oh, ici les chiens m'attaquent en route. »
Cheval blanc lui donne un fouet. « Tu feras siffler ce fouet et cela les effraiera. »
« Aïe, 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 aïe. Oh, si tu galopes trop fort, ça me coûtera la vie. »
Enfin, ils prennent la route. Et sur le dos du cheval, la tortue chante. Cheval blanc est mon cheval blanc est mon cheval. Et je suis l'écuyère, cheval blanc est mon cheval. Et j'en suis l'écuyère. En les voyant passer, les arbres rient de toutes leurs feuilles. Tout près du palais du roi, Cheval blanc chuchote. « Et la tortue, descend, descend. Si un courtisan me voit dans cet appareil, j'en mourrai de honte. »«
Ah non, jamais de la vie, je descendrai pas !»
dit la tortue en lui allongeant un coup de fouet.
« Mais descends la tortue, descends !»
Ils commencent à se disputer. Et le roi, qui a vu la tortue fort bien montée sur cheval blanc, vient à leur rencontre en s'écriant « Oh ! Comme ça, cheval blanc, tu es bien le cheval de la tortue, pas de doute !» Cheval blanc se cabre et s'élance à travers champs comme si on lui avait enfoncé dans les flancs des éperons de feu. La tortue, agrippée à sa crinière, se maintient en selle par miracle. Et comme ils traversaient un ruisseau, elle en profite pour se laisser glisser et choir dans l'eau. Cheval blanc se sent soulagé du grand poids de la tortue et il hennit en pensant à elle. « Ah, mieux vaut la ruse que la force. Et voilà pour lui. » Et la fois prochaine, je vous raconterai une autre histoire qui n'est pas une histoire de cheval, mais qui est une histoire similaire et qui nous vient de l'Amérique du Sud. Chères auditrices et chers auditeurs, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.